divine Vesta, éternelle mère de Rome. Aide-moi, rends la force et la santé à mon père. Protège-nous des périls qui planent chaque jour sur l'Empire. Accorde-nous la paix. Veille sur Rome.
La radio n'étant pas télévision, nous ne pouvons pas offrir à l'auditeur ce que nous aurions offert aux téléspectateurs, c'est-à-dire des images.
Bonjour à tous, chers auditeurs, et bienvenue dans ce 23e numéro de Transhistorien pour une rubrique que vous connaissiez si vous nous écoutiez l'an dernier, les pendules à l'heure. Dans les pendules à l'heure, on parle de clichés. Un cliché sur un personnage, sur un événement ou sur une période, et on essaie de comprendre d'où il vient, et toujours, évidemment, dans la bonne humeur. Et alors que j'étais seul l'an dernier dans cette véritable croisade, j'ai enfin été rejoint. Une nouvelle voix féminine m'accompagne dans ces aventures. Bonjour Maria.
Bonjour Clément.
Et pour ce premier numéro, on va parler chute, on va parler décadence et on va parler barbare, non ?
Tout à fait Clément, on va partir à la fin de l'Antiquité, dans un siècle de sang, un siècle de meurtre et de trahison, un siècle qui finit en 476 avec la chute de l'Empire romain.
On dirait un enfant comme les autres en train de jouer. Et pourtant ce jeune garçon n'est autre que le souverain d'un immense empire. Il s'agit de Romulus Augustule, le dernier empereur romain d'Occident. C'est un enfant dont le destin est scellé depuis longtemps, car les attaques des royaumes barbares menacent l'Empire. Et un jour d'automne, en 476, un général germanique lui arrachera le diadème dont tous les empereurs romains étaient coiffés.
Alors bon, visiblement, Maria, ça ne va pas très fort l'Empire romain au 5e siècle, hein ?
En effet, l'Empire fait face à de nombreuses difficultés.
Déjà, il date de quand cet Empire romain ? Il commence à se faire vieux tout de même.
Oui, alors techniquement parlant, on parle d'Empire à partir de la prise de pouvoir d'Octave Auguste, donc en 31 avant Jésus-Christ, après la bataille d'Actium. C'est donc un empire déjà vieux de 5 siècles et qui, en cette fin de 5e siècle, fait face à des problèmes militaires, politiques et, comme on le croit souvent, culturels.
Oui, parce que quand on pense au 5e siècle, on pense à l'image de ces hordes de barbares qui déferlent sur l'Occident, en Gaule ou en Espagne ou en Italie, dans ce qu'on a ensuite appelé les invasions barbares.
Oui, alors plutôt que d'invasion, aujourd'hui, on préfère le terme de migration, qui est beaucoup plus neutre et beaucoup moins connoté péjorativement. À l'origine, pour faire face à cette pression des peuples germaniques sur les frontières, les empereurs finissent par conclure des traités avec eux à partir du 3e siècle. Ces traités leur permettent de s'installer sur un territoire en périphérie de l'Empire et de régler la question sans continuer à se faire la guerre. Et ces peuples finissent par se mélanger aux populations locales. D'ailleurs, certains grands généraux de la période sont issus de ces populations intégrées et romanisées, comme par exemple le sénateur et général Aesius, dont le père est d'origine scythe, et qui sert l'empereur Valentinien III.
Bon, mais tout n'est pas rose tout de même, il y a quand même des affrontements violents. En 376, par exemple, la bataille d'Andrinople est un véritable désastre pour l'armée romaine, et une victoire goth assez éclatante. Et puis, dans de nombreuses régions où habitaient des Francs et des Goths, eh bien, ces Francs et ces Goths ne reconnaissent plus que nominalement l'autorité romaine. Ils se taillent ainsi des royaumes. C'est la naissance du royaume wisigothique ou du royaume franc au cours du 5e siècle. Un autre exemple, en 429, les Vandales arrachent à Rome le contrôle des riches provinces d'Afrique du Nord, ce qui porte un coup très dur aux finances impériales et à la capacité à Rome de monter une nouvelle armée pour faire face à ces invasions. Le symbole de cette perte de contrôle, ce sont les deux sacs de Rome, le premier en 410 et le second en 455, lorsque la ville est tout simplement pillée. Alors l'événement est assez retentissant, surtout en 410, puisque c'est la première fois depuis des siècles que la ville éternelle, la ville qui a conquis le monde, est envahie.
Alors effectivement, comme tu l'as dit, tout n'est pas tout rose dans les relations entre peuples germaniques et romains, et cela contribue à déstabiliser le pouvoir central, qui est lui-même en prise avec des tensions politiques internes à l'Empire. En effet, des problèmes de succession affaiblissent le pouvoir politique. Pour te citer un exemple, à la mort de l'empereur Honorius en 423, un usurpateur, Jean, tente de prendre le pouvoir. Alors qu'au même moment, Théodose II, qui est empereur de l'Empire romain d'Orient, ambitionne de récupérer cette partie de l'Empire afin de réunifier l'Empire. De manière générale, ce qu'il faut retenir sur ce 5e siècle, c'est qu'il est marqué par des tentatives d'usurpation, des renversements, des assassinats, qui empêchent les empereurs de se maintenir durablement sur le trône de l'Empire d'Occident.
Et donc en fait, quand le dernier empereur, Romulus Augustule, est déposé en 476 par Odoacre, un barbare, on a considéré que l'Empire avait disparu, emporté au terme d'un long siècle de décadence dans ses invasions. Et ce qui a fondé cela, dans l'historiographie, c'est un texte, le texte d'un Anglais, Edward Gibbon, auteur au XVIIIe siècle d'une « History of the Decline and Fall of the Roman Empire ».
Effectivement, c'est vraiment le texte qui fonde cette vision de décadence de l'Empire romain. Écoutez donc ce qu'il écrit en 1776.
Le gouvernement romain devenait tous les jours plus odieux à ses sujets accablés et moins redoutable à ses ennemis. Les taxes se multipliaient avec les malheurs publics. L'économie était plus négligée à mesure qu'elle devenait plus nécessaire. L'injustice des riches faisait retomber sur le peuple tout le poids d'un fardeau inégalement partagé, et détournaient à leur profit tout l'avantage des décharges qui auraient pu quelquefois soulager sa misère. L'inquisition sévère, qui confisquait leurs biens et exposait souvent leurs personnes aux tortures, décidait les sujets de Valentinien à préférer la tyrannie moins compliquée des barbares, à se réfugier dans les bois et dans les montagnes, ou à embrasser l'état avilissant de la domesticité mercenaire. Ils rejetaient avec horreur le nom de citoyen romain, autrefois l'objet de l'ambition générale. Les provinces armoricaines de la Gaule et la plus grande partie de l'Espagne, entraînées par la confédération des Bagaudes, vivaient dans un état d'indépendance et d'anarchie, et les ministres impériaux employaient inutilement des troupes et des lois de proscription à réduire des nations qu'ils avaient jetées dans la révolte et dans le désespoir. Quand un même moment aurait vu périr tous les barbares, leur destruction totale n'aurait pas suffi pour rétablir l'Empire d'Occident. Et si Rome lui survécut, elle avait vu du moins périr sa liberté, son honneur et sa vertu.
Merci Jérémy pour cette lecture. Donc cette vision de l'Empire romain, affaibli, impuissant, au bord de l'abîme et en prise avec des problèmes qui le submergent de toutes parts, est en fait une vision très biaisée de l'Empire. Gibbon tend à accentuer la fin d'un modèle sans chercher à voir dans ce modèle la transformation, la transmission qui s'opère. Il contribue donc à créer une rupture. Et pour accentuer cette rupture, on le voit dans le texte, il utilise tout un vocabulaire de la faiblesse, du déterminisme et surtout de la morale. Il parle de soulager la misère, il parle de tyrannie. Et l'utilisation de ce vocabulaire de la morale tend à induire un jugement de valeur sur la période.
Et c'est le premier, Gibbon, à développer cela, Maria ?
Alors non, justement, Gibbon n'est pas le premier à lire la période de cette manière. C'est Montesquieu qui, en 1734, parle dans ses considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence, de la corruption des grands, de l'opposition entre les riches et le peuple, et surtout de la perte de valeur de la notion de citoyenneté romaine. Il fait de tous ces facteurs la raison d'un abandon des valeurs romaines par son propre peuple, qui est devenu vicié et corrompu. Or, Gibbon est un grand lecteur de Montesquieu. Il reprend son idée sur l'Empire romain et le développe dans un ouvrage beaucoup plus détaillé. À travers Gibbon et Montesquieu, on voit se dessiner une tendance au XVIIIe siècle qui est celle de l'intérêt des lettrés pour l'Antiquité. Beaucoup ont ainsi cherché à expliquer la chute de l'Empire romain en reprenant les écrits d'auteurs anciens très critiques sur leur siècle, et ils ont contribué à amplifier cette vision. Or, c'est cette vision déformée par l'interprétation et l'effet de source qui s'est imposée et qui a perduré au XIXe et encore aujourd'hui.
Oui, parce que la remise en cause de ce schéma, de cette décadence inéluctable finissant par la fin romantique de la civilisation romaine, eh bien, cette remise en cause, elle date seulement du XXe siècle. En France, en 1977, Henri-Irénée Maroux, historien de l'Antiquité, publie un petit ouvrage au titre assez révélateur, « Décadence romaine ou Antiquité tardive ?». C'est un ouvrage qui s'intéresse à la période allant du 3e au 7e siècle et qui veut montrer qu'entre l'Antiquité classique et le Moyen-Âge existe une étape, qu'en somme la rupture est douce, que la culture romaine n'est pas balayée par les barbares, mais progressivement incorporée et transformée. Et en fait, ce concept de décadence induit un jugement moral extrêmement péjoratif. Or, des 3e au 7e siècle, tout ne part pas à volo dans l'ère culturelle romaine. Avec ce concept d'antiquité tardive, Maroux reprend le cadre imaginé par un historien américain, à la même période, dans les années 60-70, Peter Brown, qui le développe à ce moment-là et qui vise avec ce concept à montrer que la culture romaine classique continue à vivre en Orient, bien sûr, là où la partie de l'Empire résiste aux invasions, mais aussi en Occident. Ainsi, l'évêque Grégoire de Tours, au VIe siècle, est un parfait latiniste, pétri d'une très grande culture classique. Ou encore, Odoacre et Théodoric, qui prennent le pouvoir en Italie en 476, juste après avoir déposé le dernier empereur, eh bien, se comportent et gouvernent exactement comme des empereurs romains, mais sans en avoir le titre.
Et malgré ces remises en cause historiographiques récentes, l'idée de la décadence à la fin de l'Empire romain est encore très présente aujourd'hui. Le meilleur exemple, à mon sens, pour illustrer ces représentations de l'Empire romain, ce sont les péplums qui ont été produits au XXe siècle, et encore aujourd'hui d'ailleurs dans quelques mauvais films hollywoodiens.
La légende est née il y a longtemps, au pied de ces sombres collines et sous ces mêmes cieux. Elle compte l'histoire d'une arme au pouvoir extraordinaire. L'épée porte en elle une prophétie. L'Empire vit ses jours les plus noirs. Face à l'invasion barbare...
Défendez l'Empereur ! Allez !
Ils sont des milliers !
Comment est-ce arrivé ? Son père et sa mère ont été tués, ainsi que mes hommes.
Seule une poignée de fidèles guerriers.
Nous sommes les gardiens de la foi.
Jamais rien ne pourra nous séparer.
Risquerez tout.
À partir des années 30, beaucoup de péplums sont tournés, dont une majorité écrasante, sur l'Empire romain. On compte à peu près plus de 400 péplums sur ce thème. Ils reprennent évidemment pour la plupart cette vision déformée de l'Empire et de sa chute, mais ils sont surtout très intéressants pour ce qu'ils disent sur les contemporains. Concernant les péplums italiens des années 30 ou 40 par exemple, le parallèle est assez évident avec la vision de Mussolini de la grandeur de l'Italie et sa volonté d'en refaire un empire puissant. En fait, le péplum montre qu'à travers l'intérêt pour Rome, c'est l'intérêt pour son époque que le réalisateur pense.
Et donc, en fait, parler de la décadence de Rome, c'est peut-être, c'est plus révélateur, comme tu l'as dit, de l'époque dans laquelle on vit que de l'époque dont on parle. Quand on cherche à expliquer la chute de Rome par la décadence avec ce terme si péjoratif, c'est par rapport à nos propres peurs et nos propres préoccupations. Un exemple un peu provocateur pour aller dans le sens de ce que tu dis, mais développé par Johann Chapoutot, qui est un historien de l'idéologie nazie. Il explique que le Troisième Reich, dans sa fascination pour Rome, avait trouvé et mis le doigt sur le moment où Rome bascule dans la décadence. Il s'agit très précisément de l'année 212. Pourquoi ? Parce que cette année-là, l'empereur Caracalla réforme la citoyenneté romaine et la donne à tous les habitants de l'Empire. Et donc logiquement, l'Empire se métisse et les fiers romains se mélangent avec de plus viles créatures, si on en croit les nazis. On retrouve en fait les croyances nazies en la race et en sa pureté, mais projetées sur l'Antiquité. Et cette idée de décadence due aux invasions barbares, c'est une idée qui a la vie dure. Écoutez donc Marine Le Pen le 14 septembre dernier sur Europe 1, je cite « Sans nulle action de la part du peuple français, l'invasion migratoire que nous subissons n'aura rien à envier à celle du IVe siècle et aura peut-être les mêmes conséquences. » Une phrase assez forte et qui montre que les clichés, tout de même, ont encore la peau dure.